Bien, mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par exprimer ma compassion à l'égard du peuple britannique qui vient d'être frappé par un attentat terroriste qui, à l'heure où nous nous parlons, a fait un mort dans la police britannique et un certain nombre de jeunes lycéens blessés qui est par ailleurs été français, semble-t-il. Ceci doit nous amener, et c'est quand même le cœur du déplacement que j'ai effectué au Tchad, à ne jamais penser que la menace terroriste est derrière nous. Elle n'est pas derrière nous. Elle est bel et bien réelle, quotidienne, et elle prend des formes aujourd'hui qui sont des formes de terrorisme individuel, d'autant plus difficile à prévoir et par conséquent à combattre. Ça veut dire que c'est bien en amont qu'il faut évidemment mener ce combat, et toute la légitimité de la coopération en termes de combat contre les groupes armés terroristes dans lequel est engagée la France et évidemment le Tchad et le G5 Sahel, trouve particulièrement aujourd'hui sa justification totale. J'ai eu l'occasion lors de ce déplacement de rencontrer Son Excellence le Président Idriss Déby Itno, avec lequel j'ai pu assez longuement discuter de la situation, lui demander son avis sur le Mali, sur la Libye sur laquelle, vous savez, nous avions un point commun, puisque je crois qu'il a été le seul en Afrique et moi la seule en Europe à nous opposer de manière extrêmement claire à l'intervention en Libye, indiquant à l'époque que cette intervention allait entraîner le chaos. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le chaos. Ce sont des groupes terroristes qui se multiplient et surtout ce sont des milliers d'armes qui servent de support à leur action de mort. Nous avons également avec le président Déby un point commun. Nous sommes tous les deux des souverainistes, c'est-à-dire que nous sommes attachés à la liberté de notre peuple et à la souveraineté de notre nation. J'ai expliqué au président Déby que j'étais tout à fait opposé à la France-Afrique et très largement prête à tourner définitivement cette page de la France-Afrique pour engager une action de coopération avec les pays d'Afrique et particulièrement, il faut bien le dire, avec les pays francophones, puisque là encore, la francophonie a été pour le moins oubliée depuis déjà un certain nombre d'années par la France. Or, je crois beaucoup à cette francophonie, parce que cette francophonie, ça n'est pas seulement une langue commune, c'est une culture commune, ce sont des valeurs communes. J'ai été reçu par la représentation parlementaire à l'initiative qui est pourtant en vacances. Je les remercie donc d'être venus si nombreux à l'invitation du président de l'Assemblée nationale tchadienne. J'ai exprimé devant eux un discours que j'ai appelé le discours de N'Djamena, bien sûr, dans lequel j'ai leur ai livré les grandes lignes de la pensée qui est la mienne. Ce discours, vous pourrez le retrouver sur le site internet. On vous donnera les coordonnées tout à l'heure. Je crois que c'est un discours fondateur sur les relations que la France doit développer avec l'Afrique, si les Français me font la confiance de m'élire présidente de la République d'ici quelques semaines. J'ai rencontré la première dame qui m'a beaucoup impressionné par sa force de conviction, qui a plaidé auprès de moi, mais elle n'avait pas beaucoup à me convaincre car je l'étais déjà convaincu de la nécessité d'œuvrer pour le droit des femmes. Et j'ai eu l'occasion de terminer ma visite par la visite de l'hôpital de la mère et de l'enfant, structure qui démontre la volonté de l'État tchadien de venir en aide de manière gratuite par des infrastructures qui sont des infrastructures lourdes en matière aux problématiques de santé hein, pour la population. Ces réalisations sont tout à fait remarquables, il faut l'admettre. Alors, quels sont les principes de mon programme pour l'Afrique? Je vais vous les résumer, je ne vais pas vous refaire le discours que j'ai pu prononcer tout à l'heure. Vous avez d'ailleurs à votre disposition ce livret, hein, l'Afrique, notre première priorité internationale, qui, je crois, exprime de manière claire la position qui est la nôtre. Mais je vais tenter, avant de répondre à vos questions, de vous la résumer. La première idée, c'est que la sécurité et la prospérité de la France et de l'Afrique sont indissociables. La deuxième, c'est que la France et les États africains francophones ont des valeurs communes à porter au monde, hein, et particulièrement dans ce monde qui émerge et dont on voit bien qu'il semble rompre avec les grands principes qui ont été ceux des dernières décennies. Des Français, je crois, n'ont pas plus le droit d'imposer leur vision de la société au peuple africain que des Africains n'ont le droit de le faire dans certains territoires de France. Je plaide que la richesse du monde, elle est précisément dans la défense acharnée par chaque pays de sa culture, de son identité, de ses traditions. Et je m'oppose à ce monde plat, à ce monde uniformisé que veulent nous vendre notamment les élites ultralibérales au motif de commerce et qui, en faisant disparaître nos identités respectives, eh bien, feront disparaître la richesse du monde. Je pense que la France doit redevenir un partenaire de premier plan pour le développement des États d'Afrique. Ce développement est aujourd'hui en réalité dérisoire sur le plan financier, puisque au-delà des grands chiffres qu'on nous exprime, lorsque vous débarrassez ces grands chiffres des fonds qui sont destinés à l'outre-mer, qui est française bien sûr, ou d'autres qui sont donnés, transférés à un grand nombre d'organismes, il reste 300 millions d'euros. C'est donc extrêmement peu, en tout cas très éloigné des 0,7% du PIB que je veux atteindre à la fin de mon mandat si je suis élu. Je pense qu'il n'y aura pas de règlement de la sécurité sans parallèlement une montée en puissance de ces investissements dans le développement des États d'Afrique. L'aide de la France, je vous l'ai dit, doit cibler en priorité les pays francophones et s'adresser d'abord aux États pour répondre aux besoins essentiels de la population qui, au-delà de la sécurité et de la défense, porte, à mon avis, sur l'éducation et sur l'agriculture. La communauté internationale a eu tendance depuis un certain nombre d'années à contourner les États pour passer par des structures dites civiles au motif que celles-ci auraient des actions plus lisibles. Je crois que ça a été une erreur. Parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, la France relancera sa coopération au bénéfice de forces de défense et de sécurité africaines efficaces, légalistes et au service de leur population. Je l'ai dit, la force Barkhane n'a pas vocation à s'installer ad vitam aeternam, mais elle doit incontestablement se transformer pour pouvoir être un soutien aux armées africaines et un soutien non seulement logistique, hein, mais ce sont les armées africaines qui doivent, dans les années qui viennent, il ne s'agit pas ici pour moi de venir annoncer une quelconque précipitation qui pourrait fragiliser le combat contre les groupes armés terroristes. Mais encore une fois, parce que je défends la souveraineté, je pense que ce sont aux armées africaines de monter en puissance avec l'aide, avec la coopération, avec le soutien évidemment de l'armée française et de l'opération Barkhane. L'armée française continuera donc de contribuer à la sécurité du continent, mais tant que les États africains le voudront et jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'assurer seuls leur sécurité. La France replacera sa coopération sous la tutelle politique de l'État et ses administrations la mettront en œuvre directement. Les relations économiques mutuelles profitables seront soutenues, y compris au moyen de la coopération française. Je tiens à rassurer tous ceux qui ont été inquiétés par des propos tenus par mes adversaires politiques qui ont de moi et comment dire transportent de moi une vision totalement caricaturale et bien souvent tout à fait mensongère, que pour que les Français d'origine africaine sont des Français comme les autres. Voilà. Il n'y a dans mon esprit absolument aucune différence de quelque sorte que ce soit, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils ne seront plus dans mon esprit ni des travailleurs à bas coût, ni une clientèle électorale captive, comme ils ont été envisagés bien souvent par des responsables politiques français. Pour les Français expatriés en Afrique, une attention particulière sera accordée à la qualité de l'enseignement délivré par les lycées français. Je tiens également à rassurer ici en indiquant que la France entend toujours accueillir des étudiants francophones dans ses universités, bien entendu, mais que dans la vision que je développe, ces étudiants africains n'ont pas vocation à rester en France. Ils ont vocation à retourner, fort du bagage qui leur a été transmis, dans leur pays pour participer, bien entendu, au développement économique de ceux-ci. Parce que l'immigration, je crois, est un drame pour tout le monde, un drame pour les pays qui reçoivent cette, évidemment cette immigration et qui n'ont plus les moyens d'y faire face, et la France n'a plus les moyens d'y faire face. Et pour les pays qui subissent cette émigration, parce qu'elle prive les pays africains de leur composante, souvent une composante dynamique, et encore une fois, pousse des jeunes à venir en Europe chercher un Eldorado qu'ils ne trouvent pas, et qui crée chez eux une forme d'amertume à l'égard du paradis qu'ils n'auront pas trouvé. Par conséquent, je le dis là encore de la manière la plus claire, parce que la France est souveraine, parce qu'elle a des lois, parce que chacun qui vient dans un pays doit respecter les lois du pays qu'il visite ou qu'il rejoint, les étrangers résidant illégalement en France seront reconduits et les frontières françaises seront restaurées et contrôlées. Voilà, ces principes se fondent sur la réciprocité, la sincérité, le pragmatisme et la solidarité. Et je crois que pour cette raison, ils sont compréhensibles et acceptables, non seulement par l'ensemble des chefs d'État africains, mais aussi par les opinions publiques d'Afrique, si tant est qu'ils leur soient bien expliqués, sans déformation médiatico-idéologique. C'était en tout cas l'un des objectifs de mon déplacement. Et je vous remercie par conséquent d'être tous si nombreux ce soir pour pouvoir transmettre cette vision que j'ai de la future coopération entre la France et l'Afrique. Est-ce qu'on a le site sur lequel est disponible? Pas encore. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions?
Moi, merci Madame Le Pen. Au-delà donc de ce que vous avez voulu appeler, je ne retrouve plus les termes, bon, du moins d'exposer vos priorités pour l'Afrique, parce que cette visite ne visait pas sur, comme vous l'avez dit, une certaine déconstruction du regard que l'on a sur le Front National. Et subsidiairement, peut-être vous demander aussi de dire un deux mots sur la démission, par exemple, du ministre des Affaires, du ministre de l'Intérieur et de toutes ces affaires qui ont émaillé la campagne.
Alors, vous avez raison sur votre première question, bien sûr. Je crois qu'il n'y a rien de plus clair qu'une rencontre directe. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu venir au Tchad. parce que le Tchad est aussi, on le voit bien, le centre de ce combat contre les groupes armés terroristes. Le Tchad a fait des efforts tout à fait considérables. Il a même projeté son armée à l'extérieur de ses frontières. Il n'y a pas beaucoup de pays d'Afrique qui sont capables de faire cela. Il a donc, encore une fois, fait un grand sacrifice en envoyant ces jeunes soldats faire eux-mêmes le sacrifice pour certains de leur vie. Donc je reconnais là l'importance fondamentale du Tchad et notamment son importance parce qu'il a été aussi le cœur de ce G5 Sahel dans lequel moi je crois beaucoup. Voilà, je crois qu'il peut beaucoup apporter à la sécurité du monde. Il n'y a qu'en venant et en expliquant ce que je pense que je peux passer au-dessus des manipulations médiatiques, au-dessus, encore une fois, des mensonges de mes adversaires qui, en réalité, ne veulent pas que l'Afrique m'entende parce que je viens aussi porter une condamnation de la politique qui a été menée par eux, les uns et les autres, depuis des décennies. Je viens dire que je romprai avec cette politique qu'on a appelée politique de la France-Afrique. Donc, quoi de mieux que de venir vous rencontrer, que de venir rencontrer les élus tchadiens, que de venir bien entendu rencontrer le président du Tchad, pour que, au travers de ce discours de N'Djamena, non seulement les Tchadiens me voient tel que je suis et me jugent sur les idées qui sont les miennes, mais que, quelque part, toute l'Afrique se saisisse de ce débat et de ces perspectives de nouvelles coopérations que je viens offrir. Concernant la démission, c'est quand même la moindre des choses. Les faits qui étaient reprochés au ministre de l'Intérieur sont des faits très graves, puisque en réalité ils visent un enrichissement personnel. Bon. Monsieur le ministre de l'Intérieur a démissionné, il a bien fait. Sauf que l'on voit bien que ces failles personnel pose un vrai problème au pays. Nous sommes en plein risque terroriste et je pense que quand même le président et le premier ministre auraient pu se renseigner avant de désigner un ministre de l'Intérieur qui manifestement avait de tels faits à se reprocher, car cette instabilité des ministres de l'Intérieur peut poser demain un vrai problème de sécurité pour notre pays. Enfin, moyennant quoi, dans la campagne politique française, on parle beaucoup d'emplois fictifs. Celui-là en était vraiment un d'emploi fictif, puisque le ministre de l'Intérieur, depuis qu'il a été nommé, on ne l'a vu nulle part et il n'a strictement rien fait. Bon. Donc au moins, il sera remplacé par quelqu'un, je l'espère, qui montrera un peu plus d'appétence pour le poste ministériel qui lui a été confié.
Sur les affaires, il y a vous, il y a M. Fillon aussi qui avait été visé.
Enfin, la situation est totalement différente entre moi et M. Fillon, pardonnez-moi d'abord, parce qu'encore une fois, en ce qui me concerne, il n'a jamais été question d'enrichissement personnel. Or, c'est le cas de M. Fillon, c'est le cas de M. Leroux. Bon. Il n'a jamais été d'ailleurs réellement question d'emploi fictif, car personne ne conteste le fait que mes assistants travaillent. En réalité, nous sommes dans un combat avec le Parlement européen. Voilà, mon mouvement politique est combattu par le Parlement européen qui vient lui chercher des noises administratives sur l'endroit où doivent travailler les assistants, etc. Bon, moi je mènerai ce combat, ça ne me pose aucun problème. Je l'ai dit, je lutte contre l'Union européenne. Je pense qu'elle affaiblit les pays d'Europe. Et je ne m'attendais à rien d'autre qu'à une instrumentalisation de la justice. Elle a eu lieu. Je vous rappelle que dans cette affaire, j'avais demandé, moi, il y a un an, la nomination d'un juge d'instruction. J'avais demandé, moi, je veux un juge d'instruction. Et comme par hasard, on m'a dit non. Et comme par hasard, on l'a désigné quelques semaines avant l'élection présidentielle. Bon, personne n'est dupe de la manière dont le pouvoir politique cherche à instrumentaliser la justice. Ça pose quand même un problème de fond dans cette campagne présidentielle française, parce que du coup, on ne parle plus que de ça. Chaque jour amène son lot de feuilles. C'est le feuilleton, le feuilleton, une sorte de télé-réalité médiatico-judiciaire. Sauf que ça prive les Français quand même d'un débat qui est essentiel et qui engage l'avenir du pays. Quel choix ? Quelle politique sociale ? quelle politique de lutte contre le terrorisme, quelle politique internationale. Vous avez vu que lors du dernier débat, j'ai attaqué de manière assez raide M. Macron, parce que sur la politique internationale, je suis désolé, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit, mais moi, je n'ai strictement rien compris. Voilà. C'était une succession de phrases complètement vides de sens. Or, il est quand même important que la France ait une vision très claire et que les candidats à la présidentielle française aient une vision très claire de leur politique internationale, particulièrement au moment où émerge un nouveau monde. Car on voit bien que Theresa May, que la Russie de M. Poutine, que les États-Unis de M. Trump, que l'Inde de M. Modi, c'est un monde nouveau qui émerge. Et c'est un monde qui émerge sur la base des grands principes que nous défendons, le patriotisme, la souveraineté des États. Et donc, il faut que la France joue pleinement son rôle dans l'émergence de ce nouveau monde et ne reste pas au bord de la route à bégayer quelques phrases vides de sens qui ne permettent pas aux Français de savoir où quelqu'un comme M. Macron veut les emmener. Bon. Quant à, puisqu'on parle de la politique internationale, permettez-moi aussi d'être quand même un peu sévère sur cette campagne présidentielle. Que va penser M. Poutine lorsqu'il va apprendre que les personnes que M. Fillon lui a fait rencontrer en réalité payaient M. Fillon? Enfin, vous voyez, c'est toute la réputation de la France qui en l'occurrence est en jeu avec ce type de comportement et donc ce type de révélation. Oui.
Madame Le Pen, vous souhaitez sortir de l'Europe pour une efficacité de souveraineté nationale.
Oui.
Ce qui serait juste ce qui serait juste, mais êtes-vous au même moment prête d'accorder le bénéfice aux États africains de changer de monnaie et de retirer du trésor français les réserves de crédit des États de l'Afrique francophone qui veulent aussi assurer leur souveraineté?
Oui. Ma réponse est oui. Je me suis déjà exprimé il y a plusieurs années sur ce sujet. Je défends la souveraineté de la France et la liberté de la France à avoir sa propre monnaie. Eh bien, je défends la liberté, la souveraineté de tous les États et la liberté de tous les États à avoir leur propre monnaie. Les choses sont extrêmement claires. J'entends les plaintes de nombreux pays africains qui considèrent que d'abord, par principe, ils doivent avoir une monnaie et que de surcroît, le franc CFA, pour ceux évidemment qui ont cette monnaie, est un inconvénient à leur développement économique. Donc j'entends cela et de la manière la plus claire, j'ai là encore un point commun avec son excellence. Panne de courant. Bon, j'ai là encore un point commun avec son Excellence. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision.
Une autre question. Tout à l'heure, en parlant du chaos libyen, vous avez dit au départ, vous vous êtes opposé à l'intervention de l'OTAN. Alors, une fois Madame Le Pen à l'Élysée, comptez-vous sur l'OTAN pour une deuxième intervention pour mettre fin à ces chaos libyens, ou bien vous allez avoir d'autres structures avec la force française pour y intervenir en Libye?
Bon, moi ce que je pense, c'est que l'urgence est de s'attaquer aux sources de financement des terroristes. Or, je n'ai pas le sentiment pour l'instant qu'une politique réellement efficace et volontaire ait été menée pour couper les sources de financement. Nous avons évoqué avec son Excellence la route de la drogue, notamment, hein, puisque la drogue finance les terroristes, mais le trafic de migrants aussi finance les terroristes. Et là, il faut quand même admettre une chose, c'est que en ayant la politique laxiste qui est celle de l'Union européenne, qui consiste à accueillir tous les migrants que font passer les passeurs, en les raquettant, créons les conditions d'un développement de ce commerce ignoble, voilà, de ce commerce d'êtres humains. Donc je crois que c'est une erreur majeure. Je pense qu'en Libye, il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut s'appuyer sur la diplomatie régionale. Moi, je crois beaucoup à la diplomatie régionale. Encore une fois, c'est à la diplomatie régionale de trouver les solutions pour sortir de ce chaos. Ça n'est pas, à chaque fois qu'on a essayé de faire cela par les armes, le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le plan politique, ça n'a pas été d'une très grande efficacité. On a mis plus la perturbation et le chaos que régler la situation. Le régime de M. Kadhafi, avec lequel je n'avais absolument aucun contact, hein, je le dis clairement, à la différence peut-être d'autres responsables politiques français, il était évident que la chute de ce régime allait entraîner le chaos que nous connaissons. Ça n'a pas empêché certains de réitérer l'expérience en Syrie, avec les résultats que nous connaissons également. Et en même temps, ils n'avaient pas tiré les leçons du passé, puisqu'ils avaient commis les mêmes erreurs en Irak. Bon. J'ai été donc rassuré d'entendre, par exemple, le président Trump indiquer qu'il entendait lui aussi rompre avec cette politique d'ingérence systématique qui consiste à se considérer, se comporter pour les États-Unis comme le gendarme du monde, en commettant manifestement des erreurs géostratégiques dont chacun paye après les conséquences.
Madame Bertin, monsieur Vincent, vous êtes allé au Tchad, vous avez rencontré le président Déby, vous avez été à la représentation nationale. Dites-nous pourquoi vous n'avez pas rencontré la société civile. Ça, c'est la première question.
Oui.
L'autre volet, c'est que tout à l'heure, vous avez dit dans votre intervention que vous accepteriez, une fois élu en tant que président, vous accepteriez les étudiants.
Oui.
Qui ne viendront qu'étudier et repartir chez eux.
Oui.
Or, en Afrique, on sait très bien qu'on a un problème de gouvernance qui, par ailleurs, fait en sorte qu'il y a un réel problème d'emploi à la jeunesse. Marine Le Pen, élu président, que feriez-vous pour ces pays africains qui souffrent de mauvaise gouvernance?
Alors, pour répondre à votre dernière question en premier, je crois que c'est le sens exactement de la politique de développement que je veux voir mener. J'ai pris un engagement de faire monter cette politique de coopération en termes financiers à 0,7% du PIB français à la fin de mon quinquennat. 0,7%. C'est considérable, hein. C'est à peu près 15 milliards d'euros qui seraient ainsi réservés à la coopération. C'est donc autant d'investissements qui seront effectués et qui soulageront les États africains. Et ils pourront ainsi, si vous voulez, se tourner exclusivement vers le développement du commerce. Quand je veux que cette coopération s'exprime à l'égard de l'agriculture, pour pouvoir faire bénéficier les pays alliés d'Afrique francophone de nos compétences, de notre savoir-faire, de notre technologie. C'est aussi pour permettre le développement économique. Moi, je crois beaucoup à cela. Et donc l'idée, c'est évidemment de participer par cette coopération à un développement économique dans l'objectif, vous avez raison de le dire, de permettre à la jeunesse de pouvoir vivre décemment, de créer des structures, des entreprises, et donc de ne pas être obligé soit d'être attiré par les sirènes, encore une fois, de ceux qui cherchent à les embrigader, ou de partir vers les sirènes européennes qui sont autant à l'arrivée, encore une fois, de déception. Pour répondre à votre première question, je n'ai pas rencontré la société civile tout simplement pour une raison de temps. Je suis en pleine campagne présidentielle, ça ne vous a pas échappé. Je suis arrivé hier matin, je suis immédiatement parti rejoindre le président Déby dans sa résidence familiale. Et je suis revenu et aujourd'hui j'ai eu un emploi du temps, ça ne vous a pas échappé non plus, extrêmement chargé. Mais qu'à cela ne tienne, ça n'est que partie remise. Moi je serais tout à fait ravi de pouvoir rencontrer la société civile et pouvoir encore une fois discuter avec elle. Peut-être d'ailleurs des besoins qu'elle exprime, hein, des carences qu'elle souhaite mettre en œuvre. Encore une fois, moi, il ne s'agit pas, quand je parlais des étudiants tout à l'heure, de dire on va former l'intégralité des étudiants, mais il s'agit de créer là aussi des coopérations en matière d'éducation, d'université. Mais ça, c'est normalement le sens de la francophonie. Et on voit bien que la francophonie a perdu totalement cela de vue. Mais aussi des relations commerciales. Vous savez, il y a des études qui démontrent que les pays qui ont la même langue commercent 65% fois plus que les pays qui ont des langues différentes. Je ne vois vraiment aucune raison de ne pas nous appuyer sur cette francophonie, non seulement dans le cadre de nos échanges universitaires, non seulement dans le cadre de nos échanges commerciaux, mais évidemment dans le cadre d'échanges également culturels. Tout ça fondé sur une très très vieille amitié entre le Tchad et la France. Voilà.
Madame Le Pen, avant votre venue au Tchad, un parti politique s'est opposé. Alors, que pensez-vous, que direz-vous ?
Oui, c'est un parti politique qui appartient à l'International Socialiste. Donc je ne suis pas particulièrement étonné de voir qu'ils sont en désaccord avec ma venue. Mais tous socialistes qu'ils sont, il faut qu'ils comprennent que la démocratie, c'est aussi d'être capable d'entendre tout le monde. Voilà, c'est ça la démocratie. Je sais que c'est un parti qui est très minoritaire. Mais ça n'est pas pour ça d'ailleurs que je lui exprime du mépris. Hein. Je pense que tous les partis politiques méritent le respect, mais encore faut-il qu'il ait aussi un comportement respectueux à l'égard de représentants politiques étrangers. Je suis quand même la présidente du premier parti de France, ça n'est pas rien. Je suis candidate à la présidentielle, en ce moment donnée en tête des sondages, ça n'est pas non plus rien. Bon, mais décidément... les socialistes, encore une fois, ont du mal avec ces concepts de respect et peut-être de démocratie.
Madame Le Pen, parlant encore du souverainisme et de la souveraineté, l'Afrique, théoriquement, on pense à l'indépendance économique, politique, mais en réalité, il y a trop de soubresauts et beaucoup de régimes qui se sont succédés, surtout à la métropole, ont bien voulu parler de rompre avec la France-Afrique.
Oui.
Êtes-vous réellement d'avis ou bien ce que vous dites n'est que des propos fallacieux pour ramener l'Afrique vers vous?
Je ne peux pas vous apporter la preuve que c'est ce que je ferai quand je serai élu. Il va falloir attendre un peu pour voir. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai une vision complètement cohérente. Par conséquent, quand je dis je vais rompre avec la France-Afrique parce que je considère que la France n'a pas à être le gendarme de l'Afrique et qu'il n'y a pas d'ingérence, nous n'avons pas à mettre en œuvre d'ingérence de quelque nature que ce soit, c'est en cohérence totale avec ce que je réclame pour moi-même, vous voyez. Je pense que vous pouvez être confiant dans ce domaine. Je suis quelqu'un qui est... je suis une femme de caractère, je suis une femme de conviction, je me bats depuis longtemps pour défendre ses idées, et vous verrez que lorsque je serai au pouvoir, j'étonnerai le monde, peut-être un petit peu comme Donald Trump a étonné aussi le monde. Le monde est étonné de voir un président élu qui respecte ses promesses. Alors tout le monde disait, mais c'est incroyable ce Trump, il respecte ses promesses, quelle honte, disait-il. Ben non, je trouve que c'est ça la franchise, c'est ça la droiture, c'est ça l'honnêteté, c'est de se faire élire sur ses convictions et d'appliquer ses convictions lorsqu'on arrive au pouvoir. C'est sûr qu'en France, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les bonnes habitudes. Voilà. Oui, monsieur.
Monsieur, maintenant, vous avez visité les forces d'opération Barkhane. Si vous êtes élue présidente de la France, allez-vous renforcer la coopération militaire France, si nécessaire?
Oui, si nécessaire, mais à la demande des États. À la demande des États. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si nécessaire, mais je crois que d'ailleurs, ce développement de l'aide doit se faire précisément pour permettre à terme, l'objectif c'est ça, aux armées africaines, de pouvoir assurer la sécurité de la bande sahélo-sahélienne. Vous voyez, c'est ça mon objectif à moi. Et donc, ça rentrera dans le cadre de cette montée en puissance des investissements dont je parlais tout à l'heure. La sécurité et le développement, les deux doivent fonctionner ensemble. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de développement possible sans sécurité, ça c'est une certitude, et pas de sécurité possible sans développement, parce que sans développement, eh bien, on nourrit les groupements terroristes. Je pense aussi qu'il faut arrêter, c'est tout pareil, c'est la, non seulement le montant du développement et de la coopération, mais aussi la manière de faire. J'ai vu trop, moi, comme élu, de saupoudrage, avec toute une série de projets qui partaient un peu dans tous les sens, avec des acteurs très différents les uns des autres, pas obligatoirement très fiables, où il y avait 100 euros qui partaient, et puis il y en avait deux qui arrivaient à la fin. Bon, ça c'est plus possible. Bon. Donc on voit bien que là aussi il faut restructurer pour permettre d'avoir en face des acteurs qui soient en même temps sérieux, solides, et se donner des priorités. J'ai donné les miennes. L'agriculture, l'éducation et la santé, notamment l'école primaire, et la sécurité et la défense. Voilà. Ça, et ça seulement. Mais tout ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut agir en politique et ne pas, encore une fois, s'éparpiller dans des projets tellement différents les uns des autres qu'ils n'ont plus de cohérence et donc plus d'efficacité. Et bien sûr, pour terminer, je l'ai dit, nous consacrerons un effort majeur spécifique, immédiat et de long terme aux 5 États du Sahel, parce que moi je crois que ce G5 Sahel, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Fondamental. Voilà. La France, elle soutiendra les initiatives prises par ces États dans le cadre du G5 Sahel. D'accord. Le discours et la plaquette sont donc téléchargeables
sur le site
marine2017.fr. J'espère qu'il aura l'écho le plus large. Voilà, messieurs, je vous remercie de vous être déplacés lors de cette conférence de presse.